Vous écoutez RTL.
RTL, il est 18h38 et c'est la suite de RTL Soir avec votre deuxième invité, Bernard Poirette.
Deuxième invité de RTL Soir, la journaliste de Libération, Alaa Khodmani. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être ici en studio avec nous. Vous publiez aux éditions des Équateurs, Seul dans Raqqa. Alors sur la couverture, je le précise, hein, on est filmé donc je peux montrer, il y a une femme qui est entièrement vêtue de noir, de dos, avec son ombre là, elle est sur une place publique semble-t-il, toute seule. Bon, c'est quoi l'histoire de ce livre? Parce que c'est un livre absolument fabuleux qui raconte le destin d'une femme qui s'appelle Nissan Ibrahim. Ce n'est pas son vrai nom hein, d'ailleurs.
Hein. C'est son pseudonyme sur Facebook. Ben oui, c'est
qu'est-ce
vrai qu'il y a une histoire derrière ce livre, c'est que cette jeune femme, j'ai découvert qu'elle avait, enfin, on a découvert qui elle était quand elle a été exécutée, pratiquement. Oui. C'était au début de l'année 2016, et donc c'était une jeune femme de Raqqa, qui est une professeure de philo, qui avait fait des études de philo, qui est d'origine kurde, d'un milieu très modeste, et qui s'est retrouvée complètement emportée par les événements syriens, au début, quand c'était les manifestations pour la démocratie, etc. Et elle a surtout, tout du long, tenu un petit peu la chronique de 2011 jusqu'à 2015, pratiquement.
Jusqu'à sur Internet, donc.
Sur Facebook. Elle avait donc, sur son compte Facebook, elle racontait, elle communiquait avec certains de ses amis, et elle décrivait vraiment le quotidien, et puis on a toutes les étapes aussi, enfin depuis quand le régime réprimait les premiers manifestants, ensuite. Et elle s'est enthousiasmée dans un premier temps, elle pouvait pas vraiment ni manifester, parce qu'elle est quand même d'une famille très conservatrice, et qui avait très peur pour elle, et elle devait faire attention, parce qu'elle pouvait être emprisonnée, ou poursuivie. Et puis... plus ça allait, et quand il y a eu tout d'un coup, après la libération, entre guillemets, de Raqqa, c'est-à-dire quand elle est passée hors contrôle du régime, il y a eu un instant de
pur bonheur.
De pur bonheur.
Et d'espoir.
D'un printemps absolument extraordinaire.
Et les barbus sont arrivés.
Et puis, quelques mois après, les barbus sont arrivés, les pires des barbus.
Alors, Alaa Khodmani, il faut préciser une chose, c'est une des choses que j'ai appris en lisant le livre, c'est que cette ville de Raqqa est très particulière, quand même, en Syrie. C'était une ville riche, une ville où il y avait beaucoup de cadres qui venaient travailler, etc. Et c'est aussi pour ça que pendant un an, après le début de la guerre, entre mars 2011 et mars 2012, en gros, cette ville n'a rien fait. Elle n'a pas pris parti pour qui que ce soit. Elle a attendu de voir.
C'était pas la seule. Oui, Raqqa, c'est la vallée de l'Euphrate. C'est vraiment...
Oui.
Bon, aujourd'hui, on a peur pour Raqqa à cause du barrage.
La bataille de Raqqa
exemple.
Va commencer, d'ailleurs, d'après
elle a
ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur.
Il y a cette histoire du barrage aussi qui menace Raqqa, le grand barrage sur l'Euphrate. Oui, c'est un statut particulier. C'est une ville inintéressante sur le plan touristique, historique, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. Mais à cause de... elle a connu un essor soudain dans les années 70 à cause de ces projets hydrauliques qui ont amené des techniciens, des ingénieurs et qui ont pratiquement doublé la population de la ville.
Et globalement, les gens qui habitaient à Raqqa sont des gens qui sont payés par le régime de Bachar.
Ah oui, c'est la ville, je crois, il y a une proportion de fonctionnaires la plus élevée ou presque de Syrie. Parce que ce sont bien sûr tous les gens qui travaillaient sur le projet de l'Euphrate. Mais par la suite, évidemment, il a fallu. Les familles sont venues ouvrir des écoles, les administrations, etc. Donc, oui, il y avait une très grande partie de fonctionnaires, y compris des fonctionnaires très proches du régime, c'est-à-dire encartés aux parties basses.
Bien sûr.
Ce qui était la façon aussi d'avoir une promotion plus facile auprès de ce régime.
Alaa Khodmani, racontez-nous, parce qu'elle l'a raconté, et vous avez vu hein, tout ce qu'elle a posté hein, sur Facebook. La vie quotidienne avec les fous de l'État islamique aux manettes, c'est quoi? Déjà, elle doit s'habiller d'une manière très particulière.
Bah, elle est obligée, oui. Elle essaye de résister jusqu'à la dernière limite pour ne pas se mettre complètement en noir. Ce qu'il y a avec cette obligation, évidemment, de mettre le niqab, de
se couvrir. Il n'y a que les yeux.
À peine les yeux, peine. Et encore les yeux.
Il y a un voile.
Quand on roule en voiture, quand les femmes roulent en voiture, elles sont même obligées de se cacher les yeux. C'est-à-dire, comment dire, elles ne sont jamais assez voilées. Et malgré ça, les hommes de Daesh sont dans les rues en train de voir si, quand elle fait un pas, il n'y a pas une cheville qui dépasse ou un doigt entre le...
Et elle se fait reprendre d'ailleurs plusieurs
elle
fois
se fait reprendre.
En disant,
oui,
ma sœur, couvre-toi.
Il y a harcèlement permanent de tout le monde. Et on a l'impression que ces gens-là n'ont rien d'intéressant à s'occuper, quoi, de rien de plus important à s'occuper.
Ils font la chasse aux fumeurs. Fumer devient un crime.
Oui, c'est un
crime.
On est flagellé.
Alors que tout le monde adore fumer.
Pour une cigarette, oui. Alors, et aussi bien les vendeurs que les consommateurs, que ça devient un truc interdit.
Et ils décapitent des gens en place publique. Elle voit ça.
Ça, c'est la première réaction de. Enfin, dès que c'est pour mettre sa marque. L'État islamique, quand ils arrivent dans un village, et j'ai vu ça dans plusieurs villages de Syrie, dès qu'ils arrivent pour faire un choc de terreur,
ils terrorisent.
Ils décapitent 2-3 têtes sur la place du marché, sur la place centrale, et hop, tout le monde est complètement terrorisé et montré tout de suite de quoi ils sont capables. Mais cette fille, quelque part, ça devient un défi pour elle de résister à ces gens-là. Et
mais elle sait qu'elle risque sa peau quand même. Hein. Elle le sait.
Je dirais presque qu'elle le voudrait. Enfin, qu'elle le veut.
Ouais.
Parce que, comme elle dit, elle a rêvé d'une Syrie démocratique. Il y a eu des choses absolument formidables qu'elle pensait que ça pouvait arriver. Et tout d'un coup, il y a eu ce choc terrible. Et donc, quelque part, elle va mener son combat très modeste. Elle est en train simplement de poster sur Facebook, de rapporter, de décrire quelques articles qu'elle fait sortir de Raqqa.
Oui, mais elle prend position quand même très ouvertement dans ses très courts textes en disant
«
Ils sont fous, ce sont des criminels, etc. » Elle est repérée d'ailleurs par les services de sécurité de l'État islamique,
qui
la mettent en garde.
Elle se croit protégée par son pseudo.
Oui.
Mais bien sûr, entre la délation de l'entourage, et puis elle pousse quand même le défi jusqu'à afficher sa photo. Et c'est la première chose que j'ai faite, moi, quand j'ai demandé qui est cette fille, quelqu'un la connaît, quand j'ai commencé à faire mon enquête auprès des gens qui la connaissaient, qui étaient en contact avec elle, je lui ai dit, est-ce que c'est sa vraie photo? Est-ce que c'est bien elle?
Et vous dites
oui. En effet, c'est elle. Et elle a poussé ce défi pour dire, bon, bah, maintenant qu'on se couvre dans la rue complètement, que personne ne peut me voir, je peux afficher ma photo, personne ne saura rien. Sauf qu'évidemment, elle était repérée par les rares qui la connaissaient.
Finalement, l'État islamique annonce qu'ils l'ont exécutée. On sait comment. Enfin, vous laissez entendre qu'elle a été mitraillée, qu'elle n'a pas été décapitée.
Écoutez, moi, j'ai fait l'enquête à partir de tous les gens qui l'ont connue, des gens de Raqqa, qui connaissent un petit peu, qui arrivent à suivre les informations de l'intérieur de l'État islamique. Et on a su, parce que le garçon avec qui elle a été exécutée le jour même, avec qui elle était en contact, on a dit qu'il a été exécuté ce jour-là avec une jeune femme.
Donc,
le même
très,
jour,
très probablement.
À tel endroit, on a à peu près une idée de la date. Mais évidemment, l'État islamique a mis très longtemps à reconnaître. Sa famille a essayé de demander des nouvelles. Et ce n'est que très tard qu'ils ont avoué ou ils ont dit qu'elle a été exécutée.
À la Kodmani, seul dans Raqqa, aux éditions des Équateurs, bien sûr, ça rappelle le titre de ce fabuleux livre de Hans Falada, qui était seul dans Berlin, qui racontait la lutte, comme celle donc de Nissan Ibrahim, la lutte de deux Allemands de Berlin, qui imprimaient des petits tracts contre les nazis et qui ont fini décapités dans la prison de Berlin. Merci infiniment à la Kodmani.
Merci
donc, pour ce seul dans Raqqa, aux Équateurs. Bonne soirée à vous.